Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le G7 de Biarritz s'achève dans une atmosphère consensuelle. Emmanuel Macron et Donald Trump ont affiché leur entente retrouvée et le président français a défendu ce soir les résultats concrets du sommet. Dossier dans ce journal avec Louise Baudet, Bertrand Galichet et notre invité, le géopolitologue Dominique Moïsi. Trois candidats pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête du Parti Les Républicains, les députés Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Les 130 000 militants LR voteront par Internet le 12 octobre prochain. Les explications d'Anne Fauquemberg. La sécheresse menace l'agriculture française. 86 départements ont pris des mesures de restriction d'eau. Les éleveurs sont particulièrement touchés, nous dira Catherine Pétillon. Les dirigeants du G7 ont donc affiché leur unité aujourd'hui à l'issue du sommet de Biarritz. Ils ont approuvé une déclaration rédigée par Emmanuel Macron, un texte d'une page qui recense les points consensuels, l'attachement à un commerce mondial ouvert et juste, le soutien à un règlement pacifique de la crise à Hong Kong, ou bien le refus de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Invité du Journal de France 2 ce soir, Emmanuel Macron a défendu le bilan du sommet organisé par la France. Le président français qui aura réussi à inscrire à l'agenda du G7 les incendies en Amazonie. Les explications de Louise Baudet.
Green leader en Amazonie, super médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Sur le plateau de France 2, Emmanuel Macron tire son bilan d'un G7 mené tambour battant. D'un côté, la fermeté affichée à l'encontre du Brésil.
Monsieur Bolsonaro a renvoyé les scientifiques qui faisaient des expertises indépendantes sur le sujet de la forêt amazonienne. Il a envoyé plusieurs messages disant clairement qu'il sortirait de fait de ses engagements. C'est pas moi qui ai changé, c'est simplement lui qui n'a pas respecté sa parole. Donc, en l'état, je ne signerai pas le Mercosur.
Pas d'accord commercial avec le Mercosur et une guerre des mots assumée avec le Brésilien Jair Bolsonaro. Donald Trump, en revanche, a droit à tous les égards. Objectif, s'accorder sur la taxation des GAFA qui empoisonnait les relations franco-américaines. Un accord est, paraît-il, trouvé. Et puis, œuvrer à la désescalade entre les États-Unis et l'Iran, ce qui prendra du temps.
Un, on a baissé la pression, très important. Deux, chacun des présidents a dit « je suis prêt à rencontrer l'autre sous certaines conditions ». Et on voit progressivement quelles sont les conditions qui pourraient être remplies dans les prochaines semaines. Donc maintenant, il va y avoir un travail très technique, très diplomatique. C'est fragile, donc il faut qu'on fasse très attention.
Alors ce G7 est-il un succès? Emmanuel Macron, comme Donald Trump, l'affirme.
Thank you. Thank you.
Remerciements croisés au terme d'une cérémonie parfaitement orchestrée. Mais attention, un tweet intempestif du président américain peut venir tout gâcher.
Louise Baudet, ce sommet du G7 a donc évoqué la situation en Amazonie où des milliers d'incendies touchent le Brésil mais aussi la Bolivie voisine. Pour la seule journée d'hier, 1113 nouveaux départs de feu ont été recensés sur le seul territoire brésilien. Bertrand Galichet, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Biarritz. Le G7 a promis aujourd'hui de débloquer une aide d'urgence de 20 millions de dollars.
Et cette enveloppe permettra d'envoyer des avions bombardiers d'eau combattre les milliers d'incendies qui dévorent la forêt en Amazonie. À cet effort du G7, qui paraît bien modeste au regard de l'ampleur du désastre, s'ajoutent des initiatives individuelles de plusieurs pays. Ainsi, la France va acheminer sur place des hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris actuellement positionnés en Guyane. La Grande-Bretagne de Boris Johnson promet 10 millions de livres. Vous savez qu'Emmanuel Macron avait fait de cette catastrophe l'une des priorités du sommet, forçant presque la main au Brésil pour qu'il intervienne avec des moyens militaires. Mais c'est surtout l'action à long terme que le G7 de Biarritz privilégie, à savoir la reforestation. Dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, fin septembre à New York, un plan d'aide pour l'Amazonie sera finalisé. Un projet qui requiert l'accord du Brésil et de 8 autres États pour reboiser et protéger la biodiversité, ce qui pose la question de la souveraineté des pays concernés. Emmanuel Macron s'était d'ailleurs interrogé sur un statut international pour l'Amazonie, s'attirant les foudres du président brésilien.
Merci Bertrand Galichet à Biarritz avec Sandrine Malon pour les moyens techniques. Alors, quelles leçons diplomatiques peut-on tirer de ce sommet du G7? On en parle avec l'invité de ce journal, le géopolitologue Dominique Moïsi, conseiller spécial de la Fondation Montaigne. Bonsoir.
Bonsoir.
Dominique Moïsi, peut-on parler effectivement d'un G7 réussi avec une unité retrouvée des pays membres?
On s'attendait au pire, avec des prédictions de divisions sanglantes. Au mieux, on espérait qu'il ne se passerait rien. Et en fait, on a été heureusement surpris. Il y a des résultats. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une unité retrouvée sur le long terme ? Ce serait très imprudent de l'affirmer. Mais c'est incontestablement un G7 qui s'est bien passé.
Et c'est donc un succès pour Emmanuel Macron ?
Absolument. Son ambition était de relégitimer la formule du G7 et de faire de la France une puissance médiatrice. Je crois qu'on peut dire qu'il y a réussi.
Il fallait donc inviter le ministre iranien des Affaires étrangères, selon vous, comme l'a fait Emmanuel Macron ?
Si cette invitation se traduit par une rencontre entre le président américain et le président iranien, si cette rencontre conduit à une désescalade de la tension dans le Golfe, oui, il fallait inviter le ministre iranien des Affaires étrangères.
Et donc Emmanuel Macron se pose désormais en intermédiaire incontournable pour résoudre la crise entre l'Iran et les pays occidentaux ?
Il a marqué beaucoup de points au cours des jours écoulés. Alors attendons, soyons prudents. Donald Trump nous a habitués à de nombreux retournements. Et la diplomatie iranienne est par nature très byzantine, très complexe. Mais ce soir, on peut dire que Macron a fait avancer la cause de la paix dans le monde.
Justement, Dominique Moïsi, Donald Trump s'est montré plutôt conciliant avec son homologue français. Comment vous expliquez ce climat apaisé entre les deux hommes ?
Je crois qu'il y a des considérations de politique intérieure du côté américain. Le président Trump se sent un petit peu menacé, contrairement à ce qu'il dit aux États-Unis. Les sondages ne sont pas bons pour l'essentiel et il se dit qu'il est important, avant que la campagne ne commence réellement, qu'il apparaisse comme un chef d'État responsable afin de déstabiliser un peu plus le Parti démocrate. Donc je crois qu'il y a cette dimension de politique intérieure américaine et puis il y a quand même la peur d'une récession qui serait le produit d'une dégradation de la situation géopolitique et économique mondiale. Donc la peur du lendemain pousse les êtres parfois à se montrer plus responsables.
Et cela explique donc l'attitude conciliatrice de Donald Trump tout au long de ce sommet du G7.
Oui, en fait, il voulait sortir de l'isolement dans lequel il s'était placé lui-même par ses tweets et par ses déclarations intempestives.
Dominique Moïsi, le fait qu'un sujet environnemental, la lutte contre les incendies en Amazonie, devienne un sujet majeur du G7, est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de ces sommets ?
Alors, on a déjà parlé de l'Amazonie dans un sommet du G7. On a déjà parlé des enjeux environnementaux, mais jamais à tel point, tout simplement parce que la situation n'a jamais été aussi grave. Et je crois que le président français a mis l'accent là-dessus en disant bon, le libre-échange et sa défense, c'est important, l'égalité, c'est important, la défense de la démocratie, c'est important, traiter les crises internationales, c'est important, mais s'occuper de l'avenir de la planète, c'est essentiel. Et c'est sur ce plan qu'il s'est posé comme le champion de la défense de l'environnement.
Et là aussi, c'est un succès imputable à Emmanuel Macron.
Alors, c'est un succès d'image, incontestable. C'est un succès en termes de communication. Là encore, attendons demain pour voir si les paroles se traduiront réellement en actes.
Dominique Moïsi, ce G7 a aussi été marqué par les tensions à distance entre Emmanuel Macron et le président brésilien Jair Bolsonaro. Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour dans la relation entre les deux hommes ?
Non-retour, je ne sais pas. Mais les propos du président brésilien et plus encore ceux de certains de ses conseillers ou de ses ministres ont été inacceptables, ont dépassé les limites de ce qui est habituel dans la relation diplomatique. Je crois que le président Macron a eu raison de dire qu'il était triste pour le Brésil et pour les citoyens brésiliens et qu'il méritait mieux que cet homme qui a vraiment sombré dans la vulgarité et la bassesse.
Dominique Moïsi, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est demain qu'Emmanuel Macron dévoilera le nom du candidat français à un poste de commissaire européen. Le président repousse d'un jour la date butoir fixée par la future présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. À chaque jour suffit sa peine, s'est justifié ce soir le chef de l'État français en tirant les conclusions du sommet du G7. L'actualité politique française, et ils sont trois à briguer la présidence du parti Les Républicains. Trois députés, Julien Aubert, Guillaume Larrivé et Christian Jacob. Une mission difficile, succéder à Laurent Wauquiez, emporté par la débâcle de la liste Bellamy aux européennes. Les trois candidatures ont été validées par la haute autorité du parti. La campagne va durer un mois et demi jusqu'au 12 octobre, jour du vote par internet. 131 000 adhérents LR à jour de cotisation pourront participer au scrutin. Anne Fauquemberg, les enjeux de cette élection semblent malgré tout bien limités.
Oui, des enjeux limités pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la nature de l'élection. Il s'agit bien d'élire le président du parti et non pas le futur candidat à l'élection présidentielle. Tous les impétrants s'y sont engagés. Ils se limiteront à remettre en ordre de bataille les troupes LR, que ce soit le chiracogaulliste Christian Jacob, le giscardo-sarkozyste Guillaume Larrivé ou le séguino-pasqualien Julien Aubert. Une campagne qui va donc chercher à restaurer l'image du parti, à le recrédibiliser. Tous les coups ne seront donc pas permis. On peut s'en réjouir, mais craindre aussi un manque de relief, et d'autant plus que le grand favori, Christian Jacob, qui a récolté près de 9000 parrainages d'adhérents contre un peu plus de 3000 pour ses challengers, est soutenu par des parlementaires d'horizons très divers. Interrogation se pose donc sur la future ligne. Enfin, les débats à venir ne risquent-ils pas de passer sous les radars de la recomposition politique en cours à droite? L'université d'été des LR à La Bolle samedi prochain sera précédée par deux événements de maires de droite Macron compatibles. L'association dissidente de la République des maires, fondée par le maire d'Angers, Christophe Béchu, et puis la France audacieuse, autre dérivée de cette satellisation à droite, se réunira vendredi prochain à l'initiative, cette fois-ci, de Christian Estrosi, le maire de Nice. Certains des trois candidats se préparent tout de même 5 à 6 déplacements par semaine, ils y croient, ne serait-ce peut-être que pour redonner confiance et surtout sécuriser le chemin très étroit sur lequel les LR se trouvent 3 mois après les européennes.
Anne Fauquemberg, merci. L'antenne de France 3, légèrement perturbée aujourd'hui par une grève à l'appel de l'intersyndicale de France Télévisions. Un mouvement destiné à dénoncer la suppression du Soir 3, le journal du soir de la chaîne dont le dernier numéro a été diffusé hier. Ce journal bascule cette semaine sur l'antenne de France Info avec une nouvelle appellation le 23h. De nombreux salariés de France Télévisions contestent la disparition du Soir 3. Ils ont reçu le soutien de plusieurs élus politiques locaux ou nationaux. La chaleur est de retour en France et la sécheresse s'intensifie. 86 départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau et dans certaines communes, seuls certains usages sont autorisés, notamment ceux qui sont liés à l'eau potable, la salubrité publique ou l'abreuvement des animaux. La sécheresse qui menace l'activité des agriculteurs. On fait le point avec vous, Catherine Pétillon.
Du côté des céréaliers, ce sont les producteurs de maïs ou de betteraves les plus touchés. Les syndicats d'agriculteurs évaluent les baisses de rendement entre 25 et 50%. Mais les plus durement concernés, ce sont les éleveurs. Des pâturages entiers ont brûlé. Conséquence, la nourriture pour les bêtes vient à manquer, obligeant à piocher dans les réserves de fourrage faites pour l'hiver. Face à cette crise, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a autorisé la semaine dernière 9 nouveaux départements à faucher l'herbe restante sur les jachères pour nourrir les troupeaux. Au total, 69 départements bénéficient donc de cette procédure de cas de force majeure autorisée par l'Union européenne début juillet, alors que ces espaces sont en temps normal déclarés surface d'intérêt écologique. Une initiative saluée, mais insuffisante pour Lux Messart, vice-président de la FNSEA.
L'autorisation des jachères arrive au compte-gouttes et trop tardivement. L'herbe qui aurait pu être utile dans les jachères aujourd'hui a séché sur pied. Il y a peu aussi en surface. Il y a surtout aussi besoin de regarder comment on fait pour passer l'hiver, comment on fait pour trouver des solutions en trouvant du fourrage, de la luzerne. Il y a eu beaucoup d'opérations de solidarité entre départements pour aider les départements les plus touchés. Mais il faudra aider à prendre en charge une partie du coût du transport, qui est souvent la charge la plus lourde.
Des aides pour faciliter le transport du fourrage, c'est précisément l'objet d'une réunion de travail prévue jeudi entre les ministères de l'Agriculture, des Transports, les syndicats d'agriculteurs et les transporteurs.
Catherine Pétillon, merci. Petit répit sur le front de la sécheresse. Le temps demain se dégradera dans le sud-ouest avec un ciel souvent orageux. Ciel gris également sur les régions méditerranéennes. Partout ailleurs, le soleil alternera avec les nuages. Température minimale de 14 à 23 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 21 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.